Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous, à l'écoute de ce bulletin d'information, gouvernement, négociation, la deuxième rencontre tripartite ne débouche sur aucune avancée majeure. Indice de perception de la corruption, la République tchèque fait moins bien en 2013. Et en Israël, les chercheurs découvrent une pièce pouvant faire référence au roi Ottokar II de Bohême. Les représentants de la social-démocratie, du mouvement de l'action des citoyens mécontents Anno et du parti chrétien-démocrate se sont réunis ce lundi soir pour la deuxième fois sans véritable avancée en vue de la formation d'une coalition gouvernementale tripartite. Cependant, tous semblent considérer que la mise en place de ce gouvernement est de plus en plus probable. Les sociaux-démocrates veulent présenter une ébauche d'accord de coalition à leurs partenaires avant samedi. D'ici là, des équipes d'experts des trois partis vont se rencontrer ces mardi, mercredi et jeudi pour définir les aspects d'une future politique commune dans différents domaines. Lundi soir, sociaux-démocrates représentants du mouvement Anno et chrétiens-démocrates se sont mis d'accord pour valider le budget de l'État avant la fin de l'année. Les conseillers municipaux de la capitale tchèque ont approuvé la création d'une réserve financière dans le budget de la ville pour l'année 2014. Dans une première phase de ce projet, la ville de Prague veut y transférer 300 millions de couronnes, soit 12 millions d'euros. Cet argent va provenir des revenus de cette année. Dans le cadre du budget pour l'année prochaine, la somme supplémentaire de 500 millions de couronnes, soit 20 millions d'euros, rejoindra la réserve. À la fin de l'année 2014, la capitale tchèque disposera ainsi d'une réserve de 800 millions de couronnes, soit 32 millions d'euros. Le gouvernement en démission de Jiří Rusnok envisage la possibilité de briser les limites de l'extraction du charbon brun en accentuant les changements dans la politique énergétique tchèque. Jiří Rusnok l'a confirmé ce mardi après s'être réuni avec les représentants des employeurs et des syndicats. Selon le président des sociaux-démocrates, Bohuslav Sobotka, le cabinet de Rusnok ne devrait toutefois procéder à aucune décision stratégique. Pour le cabinet de Jiří Rusnok, il s'agit probablement là de la dernière réunion tripartite. La prochaine réunion accueillera vraisemblablement de nouveaux ministres. La République tchèque apparaît à la 57e place sur 177 pays en termes d'indice de perception de la corruption, selon le rapport 2013 de l'organisation Transparency International paru ce mardi. Pour Radka Pavlišová de la section tchèque de l'ONG, ce n'est pas un hasard si la Tchéquie fait partie du peloton de queue du continent européen. La lutte contre la corruption devrait selon elle être une priorité du prochain gouvernement. Elle préconise de réformer le système de financement des partis politiques et de garantir l'indépendance des enquêteurs dans le cadre de la criminalité financière. Par rapport à la version 2012 du document, la République tchèque perd 2 places et obtient un score de 48, ce qui la place au niveau de la Croatie, du Bahreïn et de la Namibie. Le Danemark et la Nouvelle-Zélande occupent la tête de ce classement réalisé à partir de l'opinion d'experts concernant la corruption dans le secteur public. La plus ancienne pièce faisant référence au roi de Bohême aurait été trouvée dans la ville portuaire d'Acre, au nord d'Israël. Après étude de la pièce, les experts ont conclu qu'il s'agissait d'une pièce représentant le roi Ottokar II de Bohême. Ces informations ont été rapportées par le serveur Times of Israel. D'une grande valeur historique, cette petite pièce d'argent datant de la deuxième moitié du XIIIe siècle a été découverte lors des fouilles en 2009 dans la ville portuaire d'Acre, connue pour être le carrefour historique des croisades. La question reste à savoir comment une pièce médiévale tchèque s'est retrouvée au Moyen-Orient. Le denier aurait pu être rapporté en Terre Sainte par des pèlerins, comme par le biais d'échanges commerciaux ou de routes médiévales reliant Prague à l'Autriche et à Venise, puis à la Terre Sainte par la mer Méditerranée. Pour terminer, un mot de météo, toutes les Barbora et Barbara sont à l'honneur du calendrier tchèque ce mercredi. Le ciel reste dégagé sur l'ensemble du territoire, seule la région de Zlín sera couverte. Les températures oscillent entre 1 et 4 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous a été présenté par Denisa Tomanova. La suite de notre programme, c'est tout de suite avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Denisa pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chères auditrices et chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figurent tout d'abord les négociations pour la formation d'une nouvelle coalition gouvernementale, des négociations qui, près de 40 jours après la tenue des élections législatives, n'ont toujours pas beaucoup avancé, mais qui devraient s'intensifier, comme nous l'entendrons dans quelques instants. Curiosité ensuite, ce n'est pas une exclusivité tchèque, mais le projet n'en reste pas moins étonnant. Depuis quelques semaines, des sans-abri présentent les bulletins météo à la télévision tchèque. Enfin, certains bulletins seulement, mais quand même. Et puis, comme chaque mardi, la seconde moitié de l'émission sera réservée à la rubrique Panorama, avec aujourd'hui la suite de l'entretien avec le marionnettiste français Dominique Houdard, récemment de passage en République tchèque. Très bonne écoute. On commence donc avec de la politique. Pour la deuxième fois seulement depuis la tenue des élections législatives, les équipes des trois partis susceptibles de former un nouveau gouvernement étaient réunies lundi. Et même si ces nouvelles discussions n'ont abouti à aucune avancée majeure, les leaders du Parti social-démocrate, du mouvement ANO, Action des citoyens mécontents, et du Parti chrétien-démocrate ont affirmé qu'ils étaient plutôt optimistes quant à l'aboutissement de leurs négociations et à l'avenir de leur coalition naissante. On attendait beaucoup de cette rencontre de lundi. 37 jours après la fermeture des bureaux de vote, force était de constater que jusque-là, les négociations post-électorales n'avaient guère avancé. La faute tout d'abord à la crise interne au sein de la social-démocratie, vainqueur des législatives avec un score nettement inférieur à ses espérances, puis aux difficiles manœuvres d'approche avec ANO, une nouvelle formation aux positions encore parfois mal définies et difficiles à cerner pour ses éventuels partenaires. On attendait donc beaucoup de cette rencontre de lundi et comme l'a expliqué Andrei Babiš, le leader d'ANO, lors du point presse à l'issue de celle-ci, on en attendait sans doute trop.
Nous avons beaucoup discuté, longtemps négocié sur de nombreux points et nous nous sommes entendus pour poursuivre ces négociations. Je pense que c'était important. Chacun a pu s'exprimer et défendre son point de vue, ce qui est essentiel pour parvenir à un accord entre nos trois partis. Je dirais qu'il s'agissait d'un débat fécond, même s'il n'a abouti à aucun résultat concret.
Le seul résultat concret, en fait, est que les représentants du Parti social-démocrate, d'ANO et du Parti chrétien-démocrate ont intensifié leurs discussions dès ce mardi, comme le précisait le leader social-démocrate et probable futur Premier ministre, Bohuslav Sobotka.
Ces trois prochains jours, jusqu'à jeudi, les équipes d'experts formées par les trois partis dans 8 domaines clés se réuniront pour approfondir les négociations et discuter des documents devant permettre l'établissement du programme du gouvernement. Enfin, samedi, les leaders des trois partis se retrouveront pour étudier les avancées de l'accord de coalition.
Parmi les points clés de cet accord figure notamment l'adoption par la Chambre des députés du projet du budget de l'État pour 2014 avant la fin de l'année ou encore la réforme primordiale de la loi sur la fonction publique. Autant de points sur lesquels les chrétiens-démocrates semblent eux aussi être d'accord et ce alors même que dimanche encore leur leader se disait prêt, faute d'avancée notable en l'espace d'un mois, à rejoindre les rangs de l'opposition. 24 heures plus tard, Pavel Bielobradek avait changé son fusil d'épaule.
Je suis confiant, je pense que nous serons en mesure la semaine prochaine de finaliser certains points essentiels pour le bon fonctionnement de cette coalition et qui pourraient figurer dans le programme de l'accord de coalition.
Cette éventuelle finalisation du programme commun de la coalition se fera toutefois sans Pavel Bielobradek. Celui-ci s'apprête en effet mercredi à s'envoler pour un stage de 12 jours aux États-Unis, une annonce qui a fait grincer quelques dents dans les rangs sociaux-démocrates. Pas le meilleur moyen, a priori, pour faire avancer de bien lentes et difficiles négociations. Depuis le 22 novembre, chaque week-end, des sans-abri présentent la météo dans l'émission matinale de la télévision tchèque Studio 6 Weekend. Outre les prévisions, les SDF font également découvrir aux téléspectateurs leur expérience et leur vie dans des conditions climatiques dures. La télévision tchèque entend ainsi sensibiliser le grand public à la problématique des sans-abri et au risque de l'exclusion sociale. Plus de précisions sur ce projet avec Michaela Mizerakova.
La télévision tchèque participe à la campagne appelée Jour de l'espoir, Days of Hope, qui s'est déjà déroulé dans d'autres pays européens tels que l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas ou la Russie. L'idée du projet est de briser les préjugés sur les personnes en situation d'exclusion sociale et de montrer au public que les sans-domicile fixe aspirent à retrouver une vie normale. Pour les sans-abri, cette possibilité qui leur est offerte représente une grande motivation ainsi qu'une expérience concrète du monde du travail.
Nikomu neprší štěstí. Spíš běhá po zádech mráz. A každý den je zahalený mlhou. O počasí vědí lidé bez domova své.
Le premier courageux était Peter Blaha, ancien serrurier de 45 ans. Il a présenté la météo plusieurs fois pendant une journée avant de finir par raconter son histoire personnelle.
Il est désagréable de se rappeler de cette époque. En fait, j'ai joué au jeu d'argent. À cause de cette dépendance, je ne donnais pas d'argent à ma femme. Elle ne pouvait pas compter sur moi, ce qui ne me surprend pas d'ailleurs. Alors nous avons fini par divorcer, mais ce n'était que le début. Puis je suis parti travailler dans une autre région et j'ai prêté mon appartement à une amie qui a rendu les clés au service du logement. Et c'est comme ça que j'ai aussi perdu mon appart.
Peter Blaha fait partie des heureux qui ont réussi à se réintégrer dans la société. Aujourd'hui, il a un toit au-dessus de la tête et une belle famille. Néanmoins, tout le monde n'a pas cette chance. Autre participant au projet, Émile Guira, nous rapproche les possibilités de retour dans la vie normale.
La chance est určitě vždycky, ale...
Il y a toujours une possibilité, mais c'est extrêmement difficile. La façon dont nous sommes perçus par la société rend notre situation encore plus compliquée. D'habitude, vous voyez des sans-abri assis dans la rue en train de boire de l'alcool. Aux yeux des gens, nous sommes tous arrangés dans le même sac. Je serais ravi de travailler, mais vu mon âge et mon état de santé, trouver un travail classique n'est vraiment pas évident. De plus, si vous faites l'objet de saisies, le simple fait d'ouvrir un compte en banque pose problème.
A problém je, že když má člověk exekuce, tak vlastně si nemůže založit účet nic.
Plusieurs organisations, parmi lesquelles l'association théâtrale Divadno, dont tous les nouveaux présentateurs météo font partie, aident les sans-abri à s'intégrer dans la société. Tous les comédiens de cette troupe possèdent une expérience de la vie dans la rue. Émile Guira nous explique ce que jouer au théâtre signifie pour lui.
Je to obrovská psychická podpora.
C'est une grande aide psychique. Ne rien faire et penser à ce qui va se passer ou pas ne mène à rien. Ça peut vraiment mal finir. En tous les cas, c'est une activité qui me plaît et qui m'aide surtout psychiquement.
Des SDF continueront à présenter les bulletins météo à la télévision tchèque jusqu'à ce samedi 9 décembre. Globalement, si cette campagne ne résout pas bien entendu le problème de l'intégration des SDF, ni ne facilite leur insertion sur le marché du travail, elle a néanmoins fait naître une discussion et contribue à l'amélioration de l'image des sans-abri.
Voilà, c'est la fin de ces faits-événements. Merci de votre attention. Merci également de rester également notre compagnie pour la suite de notre programme. Comme chaque mardi, on retrouve maintenant la rubrique Panorama. La compagnie Dominique Houdard et Jeanne Euclin s'est présentée au public tchèque le 22 novembre dernier, et ce dans le cadre du festival intitulé « Croissant au-dessus de Prague ». Ayant sillonné pratiquement le monde entier, Dominique Houdard est à la fois un passionné de marionnettes, de philosophie et d'un public chaleureux vers lequel il aime revenir. S'il s'est fait connaître du grand public tchèque pour les marionnettes Paddox, qui sont même connues du roi et de la reine de Norvège, Dominique Houdard s'est rendu cette fois à Prague avec un spectacle plus intime, mais pas moins renversant. Voici la seconde partie de l'entretien réalisé avec Dominique Houdard que Denisa Tomanova a eu le plaisir de rencontrer après son spectacle très surprenant.
Panorama.
Panorama.
Pensez-vous que de nos jours, on a tendance justement à utiliser de moins en moins notre cerveau et de se laisser englober par ce monde un peu hypocrite ou qui ne veut pas voir.
Il y a une espèce de mélasse qui nous entoure. Enfin, on est un peu plombé par une sorte de fatalisme. Fatalisme qui envahit la terre entière en se disant bah oui c'est comme ça et puis voilà et puis on laisse faire. En ce moment je lis L'homme révolté de Camus. C'est un beau texte qui avait sa valeur quand il l'a écrit mais qui reste très important. Cette révolte devant l'absurdité du monde, l'absurdité du mythe de Sisyphe que je joue dans un spectacle, eh bien cette absurdité Non seulement il la dénonce, mais il pose des grandes questions au travers sur le suicide, sur le crime politique, donc tous les terroristes, etc. C'est des questions philosophiques profondes. On peut dire, oui, il y a les terroristes qui... Bon, par exemple, ce type qui vient d'essayer de tuer un journaliste à Libération à Paris il y a quelques jours. Quelles sont ses motivations ? Est-ce que c'est une réaction face à l'absurdité du monde ou est-ce que c'est une motivation de djihadistes religieux ? C'est des vraies questions fondamentales et qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas uniquement de traiter ça de loin en disant il y a les bons, il y a les mauvais, il y a les justes, les injustes. Non, on a tous des choses profondes à défendre, à essayer d'éclairer. Et l'éclairage philosophique nous aide à faire des choix. C'est Descartes qui disait « Quel chemin suivrai-je ? » Alors il y a plusieurs chemins. Le monde est à la croisée des chemins. Il y a des chemins vers le haut, il y a des chemins vers le bas. Il y a des chemins de traverse, naturellement. Alors voilà, il faut choisir. Essayons de choisir le chemin vers le haut.
Quel est le moment précis vous avez décidé en fait, de devenir marionnettiste ?
Quand je jouais avec les masques, j'ai découvert les marionnettes japonaises et j'ai découvert en même temps le Bunraku, c'est japonais. J'ai découvert le Brennan Puppet de New York. C'est une compagnie de New York qui jouait dans la rue contre la guerre du Vietnam. Tout ça, c'était en 68. Donc j'ai découvert que la marionnette pouvait être à la fois un langage sublime et poétique, et en même temps un langage politique. Alors, la conjonction des deux fait qu'en 68, j'ai choisi ce chemin de la marionnette, à la fois pour exprimer des choses fortes de notre société et des choses poétiques de l'humanité. Donc ça a été un choix qui s'est quasiment imposé, quoi. J'ai même pas eu à réfléchir, c'était la continuité. J'enlevais le masque et je le projetais au bout du bras. Et c'est devenu la marionnette. Donc, vous savez, il y a plein de degrés de jeu. Il y a le degré de jeu des jeunes gens qu'on a vus tout de suite en langue arabe jouer. Ils jouaient à visage découvert, tel quel, avec leurs qualités, leurs défauts, leur physique, etc. Et puis, il y a les maquillages extrêmement poussés qui sont les maquillages de l'Opéra de Pékin. Et puis, il y a le masque. Et au-delà du masque, il y a la marionnette. Donc, c'est une sorte d'éloignement. Vous savez, c'est Brecht qui a une théorie superbe sur le comédien en parlant du jeu distancié. Moi, je fais de la distanciation avec la marionnette. Le texte que je joue. Je ne les incarne pas, je ne suis pas le philosophe, mais je projette, grâce aux objets, à mes mains, à ma voix, à mon regard, je projette devant moi ces textes, et j'essaie de donner à entendre le mieux possible. Mais c'est une sorte d'alchimie qui se pose. Je ne suis pas du tout partisan du comédien qui est le personnage. Je mets Nietzsche, Platon, Michel Serres en avant, devant moi. J'utilise les objets et je fais cette espèce de composition pour essayer de faire passer les messages de ces différents philosophes.
Et quelles sont les villes que vous avez déjà visitées avec vos spectacles ou les pays ?
On a beaucoup tourné dans le monde entier. pratiquement tous les pays du monde, on les a visités en 50 ans, on a eu le temps. On a fait plusieurs fois le tour du monde. Là, comme on est accueilli à l'Institut français, donc on va profiter un peu de la ville. Et puis Prague, c'est un bonheur permanent de le voir dans toutes les saisons. Tous les pays du monde ne se ressemblent pas, bien évidemment. Il y en a où on a beaucoup été, donc à force, on est un petit peu chez nous. À Séoul, en Corée, par exemple, on a joué énormément. Donc, on a une belle relation avec les Coréens. En Norvège aussi, enfin. Et puis, moi, je me sens bien aussi en République tchèque, qu'on a beaucoup fréquenté. J'adore l'architecture, mais aussi le public. C'est un public extrêmement rieur, qui a beaucoup d'humour. L'humour tchèque, je l'apprécie. Je l'apprécie depuis longtemps, depuis que j'ai lu et que j'ai vu Le brave soldat Švejk. Donc, l'humour tchèque, c'est quelque chose d'essentiel. Et retrouver le public tchèque, pour moi, c'est un vrai bonheur.
Donc, votre compagnie, c'est la compagnie Dominique Oudard et Jeanne Auclin. Mais en fait, vous êtes seul sur scène. Alors, qui se cache derrière cette compagnie ?
Bon, dans ce spectacle, je suis seul. Et quelquefois, on est très nombreux. C'est selon les spectacles. Avec Jeanne Auclin, on est mariés depuis 45 ans. Et on joue des spectacles tous les deux. Et puis, dans certains cas, quand on joue avec les Paddocks, on est beaucoup plus nombreux. On a monté un opéra de Scarlatti, par exemple. On était 25. Il y a des musiciens, des chanteurs, etc. On est tous les deux. Et puis, on a tout un tissu relationnel qui nous permet de gonfler les effectifs en cas de besoin. Bon, comme nous vieillissons, on calme un petit peu les choses maintenant. On ralentit un peu l'activité parce que depuis 50 ans que ça dure, ça va. On a monté au moins 60 ou 70 spectacles. Donc maintenant, nos marionnettes sont à la Bibliothèque nationale. Ils nous les ont demandées, on leur a fait une donation. Ça entre un peu dans l'éternité nationale. Nos marionnettes, on s'en défait. Et on continue à jouer les Paddocks, c'est pour nous très important. Et puis on a un autre spectacle qu'on joue tous les deux, Jeanne et moi, c'est Zazie dans le métro de Queneau. Spectacle qu'on a déjà joué à Hradec Králové, entre autres, à Ostrava, enfin dans différentes villes de République tchèque. Qu'on entre nos marionnettes de notre vivant à la Bibliothèque nationale, c'est un honneur pour nous. Alors, on peut aussi, en allant sur le site internet de la Bibliothèque nationale, voir nos marionnettes qui ont été photographiées, numérisées, toutes nos archives y sont, enfin voilà. Elles vivent sans nous, et elles vivront après nous. C'est important aussi de les léguer. Et comme j'ai souvent vu des marionnettistes qui dispersaient leur collection, à leur mort, on vendait les marionnettes, alors ça allait chez les gens pour qu'ils les accrochent dans la cuisine, je trouve c'est ridicule. Donc là, ça va faire un ensemble qui permettra de faire des expositions et c'est ressorti de temps en temps. Et puis les chercheurs, dans 50 ou 100 ans, pourront découvrir la vie d'une compagnie de marionnettistes au 20e et 21e siècle.
Après Prague, quelles sont vos destinations à court terme ?
Non, nous n'avons pas d'autre destination que la France pour l'instant. Donc, si Prague nous appelle, on vient en courant, toujours. Mais non, pour l'instant, on est un peu au calme. Alors, je sais que le Canada nous demande pour l'année prochaine, déjà, avec ce spectacle, parce que les professeurs de philosophie ont découvert le spectacle et aimeraient que ça revienne tous les ans. Bon, on verra si on peut, si on a la force de continuer à le jouer éternellement, comme ça. Et puis, revenir en République tchèque, ça, c'est dès que possible, Prague et autres lieux. Bon, le problème, c'est que la culture en République tchèque a de plus en plus de difficultés. Il n'y a plus de subventions, et je vois les efforts que Lucie Nemečková est obligée de faire pour maintenir un petit festival. Elle n'a pas les moyens de ses ambitions, elle n'a pas les moyens aussi de toute cette immensité d'artistes qu'elle connaît en France et ailleurs. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, je dirais, en Europe. La vie culturelle européenne est en train de s'effondrer. Alors, on essaie d'être un petit noyau de résistance, mais sans argent, comment résister? Ça devient de plus en plus difficile. Et moi, j'aimerais bien que les choses évoluent favorablement. Mais de voir que ce pays qui était une civilisation extraordinaire il y a 100 ans ou moins, et qu'il est en train de perdre sa culture. Qu'est-ce qui remplace? C'est le tourisme. Mais le tourisme à Prague, bon, c'est une nécessité. Mais ce qu'on montre en marionnette à Prague, pour moi, c'est la honte. Et sur le plan musical, moi, les 4 saisons, ça va bien. Autre chose. Mais alors, c'est effondrant de voir qu'on ne raisonne plus qu'en termes d'argent et de tourisme. Alors que la culture musicale, la culture opératique, la culture marionnettique était au plus haut niveau en République tchèque. Et maintenant, le niveau baisse jusqu'à s'effondrer. Alors ça, c'est triste. Mais le public est là. Alors, il faut que le public réagisse. C'est pour ça qu'il faut relire L'homme révolté de Camus et se révolter contre des politicards qui font sombrer tous les pays européens. Parce que l'Europe est très, très malade. Et en France, on survit un petit peu, on a la tête hors de l'eau, mais pas pour longtemps.
Est-ce que vous connaissez des marionnettistes tchèques ou est-ce que vous avez des liens avec les marionnettistes tchèques?
Ah oui, on a bien connu le Théâtre Drac, qui a été une très grande compagnie, qui a de moins en moins de moyens, donc qui a plus de mal à survivre. Mais le Drac à Radetz-Kranové, justement, c'est une compagnie qui a fait la recherche la plus formidable et qui était, à une époque, ils venaient souvent en France, ils étaient très connus. Maintenant, on n'entend plus parler d'eux. Bon. Je préfère pas dire pourquoi, mais c'est un peu triste de voir que la marionnette tchèque, elle est restée un peu traditionnelle, mais toute cette recherche qui était menée par un grand marionnettiste qui est Krofta, c'est maintenant un peu à l'abandon. Et ça, c'est un problème de ministère de la Culture. Il y a encore beaucoup à faire ici.
C'est donc avec le marionnettiste français Dominique Houdard, Dominique Houdard qui répondait aux questions de Denisa Tomanova, que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Ahoy.